Salut à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 21 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvelle Œil. J'avais envie de partager quelques prises de recul à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain. Un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. Alors je pars à la rencontre de personnalités et de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que l'on se pose aujourd'hui. Ces personnes qui, de près ou de loin, ont rêvé, ont osé, ont expérimenté et qui ont de jolis messages à nous transmettre pour nous aider à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Parce que tous, on a besoin de conseils, d'inspiration et de vagues d'espoir auxquelles se raccrocher. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle. Pour vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes, pour vous aider à trouver votre chemin et surtout, à oser.
Et donc au final, cet échec, il avait vraiment donné un sens à ma vie et qui m'avait permis d'apprendre beaucoup plus qui j'étais. Et que si jamais j'avais pas eu cet échec, ce qui est vrai et j'en suis convaincue aujourd'hui Victoria, et ben je pense que je serais probablement dans un métier qui me saoule profondément, qui me correspond pas, qui me plaît pas. Et c'est grâce à cet échec finalement que j'ai réussi à trouver ma voie. Donc si on arrive à se rendre compte de ça, à se rendre compte que l'échec en fait souvent c'est un moment de prise de recul, c'est comme si tu en étais sur une lancée, t'as un échec, c'est un coup d'arrêt. Tu tombes, bah quand tu tombes, si je file la métaphore, t'es obligé à un moment donné de voir un petit peu si tout va bien, donc tu prends un peu de recul et puis ensuite tu te relèves. Mais tu peux te relever différemment, tu peux te relever en fait en te rendant compte que finalement il fallait pas que tu cours dans la même direction. Et bah ça c'est quelque chose, cette pause qui je pense est absolument essentielle. Et plutôt que d'avoir peur de l'échec, je dis pas qu'il faut l'embrasser et vouloir échouer, mais en tout cas quand il arrive, il faut se poser la question, je pense systématiquement, de ok, qu'est-ce que ça m'a appris.
L'histoire de Pauline résonnera peut-être pour certains d'entre vous. Elle avait à l'esprit de se mettre sur un rail pour ne pas avoir trop à réfléchir. Très timide étant jeune, elle se barde de diplômes et fait des études prestigieuses pour faire plaisir à son entourage. Elle enchaîne donc 2 années de prépa littéraire, l'école normale supérieure, normale sup, et enfin HEC. Après un échec, elle réalise qu'elle vit finalement depuis des années pour les autres et qu'elle a suivi un parcours qui n'était pas le sien. S'en suivent de longues et périlleuses réflexions, finalement éclairées par une lumière au bout du tunnel. Celle qui lui fait comprendre qu'elle aime l'aventure, le risque et les surprises. Qu'elle préfère les ennuis à l'ennui. Explorer l'inconnu, créer son monde, vivre l'ivresse d'une victoire et le rebond d'un échec. Ce sont ces soifs de sens et d'aventure qui poussent Pauline à lancer en 2011 sa propre marque de joaillerie Gemio avec son mari. Dans cet épisode, Pauline nous confie comment elle a réussi à se réapproprier sa propre vie et à trouver son chemin. Elle nous parle de ses débuts chez Gemio, de sa vision de l'échec en France, de ses conseils pour atteindre nos objectifs, et de comment créer des habitudes au quotidien. Un épisode riche, avec une invitée juste brillante, que je suis ravie de pouvoir vous faire découvrir. Salut Pauline, comment est-ce que tu vas ?
Eh ben ça va bien Victoria, merci beaucoup pour cette jolie invitation.
Merci à toi, je suis vraiment ravie d'avoir enfin pu réussir à te voler un petit moment, parce que ton parcours résonne beaucoup en moi, et je pense qu'il fera écho chez beaucoup de jeunes qui nous écoutent.
Eh ben écoute, j'espère. En tout cas, je suis ravie parce que tout ce qui est un peu choix de carrière, reconversion, alors ou pas forcément reconversion, mais se poser des questions un peu sur son avenir, je trouve que c'est pas facile quand on est jeune. Et donc, bah si mon exemple en tout cas peut donner des idées à certains, ça me ferait bien plaisir.
Écoute Pauline, tu fais 40 000 choses, tu es active partout ou presque, mais dis-nous qui tu es toi. Comment ouais. Tu souhaites te présenter aux auditeurs ?
Ah là là, c'est dur comme question. Je déteste cette question parce que je trouve que c'est jamais facile. Mais en gros, je m'appelle Pauline Léniaud, j'ai 36 ans. Je suis la fondatrice de 2 entreprises maintenant. La première s'appelle Gemio, c'est une marque de joaillerie que j'ai créée il y a quasiment 10 ans maintenant, qui est une jolie maison de joaillerie où tout est fabriqué en France. Et en gros, on a décidé de dépoussiérer ce secteur qui souvent paraissait un petit peu intimidant, notamment pour des personnes qui ne s'y connaissent connaissent pas, mais tout en restant vraiment sur des valeurs de beauté des matériaux, de fabrication française. Et donc ça, c'est moi, ma première activité. Et depuis maintenant à peu près 2 ans, j'ai une deuxième activité en parallèle qui est un podcast comme toi, qui s'appelle Le Gratin. Et au-delà de ce podcast qui est devenu un podcast important sur le milieu du business en France, puisque l'idée du Gratin, c'est vraiment d'inviter des personnes avec des parcours inspirants pour parler de ce qui a fait un peu les clés de leur succès. Et bien maintenant, je suis en train de développer une activité autour de formation, justement d'aide dans la prise de décision sur sa carrière, etc. Et donc notamment, ça passe par une formation qui s'appelle Growth et qui permet, pour l'instant c'est le début, déjà de clarifier son positionnement quand on est entrepreneur pour réussir à mieux attirer des clients. Donc ça, c'est mes deux activités professionnelles. Et puis au-delà de ça, génial, je suis mariée avec mon associé qui s'appelle Sharif et que j'adore. Et sinon, je n'ai pas d'enfant, mais tout va bien.
Et tu es heureuse.
Et je suis plutôt contente, ouais. Je suis plutôt contente de façon générale dans la vie.
À quoi elle ressemblait ta vie quand tu avais 20 ans ?
Ah, c'est une bonne question. Alors à 20 ans, je crois bien que j'étais soit en prépa, soit je venais de rentrer dans mon école, je ne me rappelle pas bien. Mais en gros, moi, j'ai fait des études très, très longues, Victoria. Donc, je suis exactement l'anti-exemple de l'entrepreneur. Tu sais, normalement, on a toujours le mythe un peu de l'entrepreneur, et d'ailleurs, qui est un bon mythe, hein, qui commence à créer sa première boîte à 13 ans. Il a vendu de la limonade, etc., etc. Et à 15 ans, il a déjà fait 15 boîtes. Et là, c'est le prochain Facebook. Moi, ce n'était pas tout à fait ça. Alors, en fait, paradoxalement, si je remonte à mon enfance, j'étais assez entrepreneur dans l'âme étant petite parce que j'arrêtais pas d'essayer justement de créer des choses, produire des choses, lancer des services. Donc, je me rappelle, tu vois, j'avais lancé assez jeune, vers, je sais pas, 12-13 ans, une espèce de petite entreprise de bijoux. Déjà, quand j'y pense, c'est quand même assez fou. Mais c'était des bijoux faits avec des petites perles, tu sais, en plastique, mais de toutes les couleurs, etc. Et franchement, je me rappelle que je m'étais fait une petite fortune avec cette histoire. Je les vendais dans tous les magasins, sur la plage, et ça fonctionnait hyper bien. Donc, en fait, j'avais quand même vraiment une mentalité de vendeuse, hein, on va le dire, de commerciale. Et j'adorais, en fait, créer des choses, et c'était pas forcément même pour l'argent, mais c'était juste le plaisir de voir que quelque chose que t'as créé peut intéresser quelqu'un et peut servir à quelqu'un. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu à titre personnel, mais je me suis un peu perdue sur la route, notamment parce que poussée, comme c'est bien souvent le cas, par mon entourage et puis surtout par mes profs, un peu ma famille, on m'a vachement dit « Ah, bah toi, t'as le potentiel de faire de bonnes études, donc vas-y, fais de bonnes études. » Il se trouve que moi, j'étais plutôt bonne dans tout ce qui était littérature. Donc, j'ai fait une première L et ensuite une terminale L. Et je me suis jetée à corps perdu en prépa littéraire. Quand je dis à corps perdu, parce que j'ai quasiment perdu la santé, franchement, tellement j'ai bossé. Mais j'étais hyper motivée, j'adorais ce que j'apprenais. Et donc, après mes années de prépa, j'ai réussi à rentrer dans une école... on va dire prestigieuse, qui s'appelle Normale Supérieure, qui est une école, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet globalement de former les enseignants. C'est-à-dire que c'est une école qui te permet vraiment de devenir prof, voire de devenir prof à la faculté. Et donc, c'est prestigieux pour les gens qui sont vraiment des intellectuels, qui cherchent à faire de la recherche. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que moi, quand j'ai débarqué à Normale Supérieure, je l'avais fait un peu pour la beauté du geste, si tu veux, parce que le concept, en fait, les thématiques m'intéressaient, la littérature, c'était vraiment un truc qui me plaisait. Mais en fait, je l'avais pas du tout fait parce que je voulais devenir prof. Enfin, sincèrement, je m'étais jamais posé la question, je te jure, Victoria, de ce que je voulais faire plus tard. Mon but, c'était rentrer dans cette école. Et donc, le jour où j'ai réussi, le jour où je suis rentrée dans l'école, eh ben, en fait, j'étais complètement perdue parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il allait falloir que je décide ce que j'allais devoir faire de ma vie. Et ça a été très, très dur pour moi parce que, en fait, paradoxalement, contrairement à d'autres écoles, tu deviens fonctionnaire. Et donc, en fait, tu dois quelque chose à l'État, concrètement. Tu n'es plus libre. Alors que moi, la liberté, c'est une valeur qui est hyper importante pour moi. Et donc, ça a été très, très dur cette période où j'ai réalisé que ça faisait globalement des années que je bossais comme un chien pour rentrer dans une école qui, en plus, n'était même pas vraiment ce que je voulais en termes de vocation. Donc ça a été une période un petit peu compliquée, mais donc pour répondre à ta question, je pense que j'étais un peu au fond du trou à l'âge de 20 ans parce que j'étais en train de me dire, j'ai quand même passé 3 ans de ma vie à bosser comme un chien pour un truc qui ne me plaît pas, et surtout je me sentais complètement coincée parce que j'avais la sensation que maintenant que j'étais fonctionnaire, j'allais devoir le rester toute ma vie, et donc que j'allais être enseignante toute ma vie, ce qui est un très beau métier, hein, une fois de plus, mais qui nécessite une vraie vocation. Et comme je ne l'avais pas, j'étais un peu désespérée de me dire, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, comment je vais m'en sortir, tu sais, ce sentiment d'être coincé, c'est terrible en fait.
Et comment tu as rebondi alors ?
Eh bien, j'ai mal rebondi. Mais j'ai fait toutes les erreurs, hein. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que ça va être une bonne leçon, je pense, pour ceux qui nous écoutent, si jamais ils sont dans ce cas de figure. Donc je me sentais complètement coincée, concrètement, et je me dis, bon, bah, il faut que j'arrive à trouver une porte de sortie. C'était vraiment ça, hein. J'étais complètement perdue, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard, et donc je me suis juste dit, comment faire ? La seule chose que je savais, c'était ce que je ne voulais pas faire, et je pense que j'avais à peu près compris que je ne voulais pas faire de la recherche, pas parce que c'est un mauvais métier, au contraire, mais juste, une fois de plus, ça nécessite une vraie vocation, parce que la recherche, c'est quand même un métier assez solitaire. Moi, je sentais que ce n'était pas du tout fait pour moi. Et d'autre part, je ne me voyais pas non plus enseigner parce que bah, j'avais fait des tests. Tu vois, j'avais un peu essayé quand j'étais du coup dans cette école. Et franchement, je me suis rendu compte que ce n'était tout simplement pas ce que je souhaitais faire de ma vie. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Et en discutant avec des amis, avec mon entourage, je me rends compte qu'il y a une autre école, toujours dans le service public, parce que j'étais fonctionnaire et que je devais donc des années à l'État, qui s'appelle l'ENA, l'École nationale d'administration, et qui te permet globalement de rester dans le service public, mais peut-être avec une dimension alors plus actionnable, je sais pas, mais en tout cas différente, qui est pas uniquement de l'enseignement, parce que globalement j'allais pouvoir soit m'orienter vers ce qu'on appelle la préfectorale, c'est-à-dire tu travailles en région avec les préfets, les sous-préfets, soit tu peux travailler dans des grands corps d'État, donc la Cour des comptes, etc. Tu peux travailler dans des secteurs plutôt de droit public, tu peux travailler, donc en gros ça m'ouvrait des portes, c'était vraiment ça, alors que j'avais eu la sensation quand j'étais rentrée à Normale supérieure, une fois de plus, même si c'est une très belle école, d'avoir toutes les portes qui s'étaient fermées. Donc je me suis dit, je dois foncer là-dessus. Et donc, la rebelote, je me remets à bosser comme un chien, parce que, en plus, si tu veux, moi, j'avais fait des dissertes toute ma vie sur des sujets littéraires, mais j'avais jamais appris l'économie, le droit, etc. Donc, j'ai refait une prépa après Normale Sup, et donc, je bosse à fond pendant 2 ans pour préparer le concours de l'ENA. Je prépare ce concours à fond les ballons, toute ma famille est derrière moi, ils me suivent, etc. Et là, je passe les écrits. Il se trouve que, un peu miraculeusement, je suis admissible. Et donc ensuite se passe un lourd moment, un difficile moment qui s'appelle qui sont les oraux. Et l'ENA, c'est assez particulier parce qu'en fait t'as plein d'épreuves un peu techniques où on va te parler de droit international, de choses comme ça, mais aussi t'as une épreuve qui est un peu l'épreuve reine qui s'appelle le grand oral. Et le grand oral, en gros, faut que tu visualises, t'as 10 personnes devant toi. T'as un public derrière toi, parce que du coup, tu n'es pas seul dans une salle, t'as 50 personnes qui t'observent, et c'est un espèce d'entretien de personnalité géant pendant 1 heure où on te demande globalement pourquoi tu veux faire l'ENA, pourquoi t'as cette vocation, qu'est-ce qui fait que t'es la bonne personne, etc. Donc, sur le papier, plutôt intéressant, parce que c'est un peu comme un entretien de personnalité. Le truc, c'est qu'en fait, comme moi, ma seule raison, c'était je veux fuir Normale Sup, autant te dire que j'avais pas... Alors oui, j'avais travaillé, mais la réalité, c'est que j'avais pas de vraies raisons valables pour rentrer à l'ENA, si ce n'est... me réouvrir des portes, mais sans réelle vocation. D'accord. Et donc, je pense qu'ils ne s'y sont pas trompés. Hein. Au bout de 2 minutes, si tu veux, ils ont commencé à me poser des questions sur quels étaient mes livres préférés et quel était le dernier film que j'avais vu au cinéma. Je pense parce qu'ils ont compris assez vite que j'étais absolument pas, si tu veux, dans le cœur de cible et qu'en fait, ils avaient déjà décidé qu'ils allaient me mettre une mauvaise note. Ce qui d'ailleurs n'a pas loupé puisque j'ai eu 2. Ce qui est catastrophique. Et puis surtout, c'est un tel coefficient par rapport aux autres notes que c'est impossible d'avoir l'ENA après ça. Donc, ça a été un moment très très dur. Et donc, pour répondre à ta question sur comment j'ai rebondi, en fait, j'ai pas tout de suite rebondi parce que avant d'avoir un moment un peu de prise de recul où je me suis rendu compte qu'il fallait que je commence un petit peu à me poser des vraies questions et probablement que j'allais devoir faire des choix difficiles, j'ai d'abord essayé de juste ouvrir des portes en allant à l'ENA, en filant un peu la métaphore de ce que j'avais fait précédemment, c'est-à-dire faire des études prestigieuses, un peu pour faire plaisir aux autres, pour me rassurer aussi sur un syndrome de l'imposteur, sur le fait que j'étais forte ou pas forte, etc. Donc, c'est rentrer un petit peu dans le droit chemin et être un peu la bonne élève. Et en fait, quand j'ai raté lamentablement l'ENA, parce qu'en fait, j'avais absolument pas de vocation et que je le faisais pour les mauvaises raisons, ça a été tellement dur parce que ça faisait quand même 6 ans que je faisais des études à ce stade, que tu te dis, en fait, 6 ans pour ça, quoi. Tout ça pour ça. J'ai perdu 6 ans de ma vie. Et donc là, je peux te dire que ça te fait un petit coup au moral pas facile. Et surtout, avec pas du tout de vision de ce que je voulais faire après. Donc, j'ai eu une période très, très dure. Mais comme souvent, avant les rebonds, tu passes souvent par un peu le fond du trou. Moi, ça a été vraiment ce moment-là dans ma vie qui a été très, très dur. Où en plus mon copain, ils étaient aux États-Unis à ce moment-là, donc on se voyait pas. Enfin, globalement, j'ai été un peu prostrée chez moi toute seule pendant 3 mois. Et au bout d'un moment, je me rappelle très bien, j'étais sur mon canapé un peu comme une épave et je me suis dit, mais en fait, c'est quand même pas moi. Moi, je suis quelqu'un de plutôt, plutôt dynamique, j'ai toujours des projets, j'aime la vie, j'aime avoir des amis. Enfin, Et là, ça faisait 3 mois que j'étais en pyjama, si tu veux, chez moi toute seule, à me morfondre et à dire pourquoi. Et donc, je me suis un peu prise en main en me disant, non, mais en fait, il faut juste que je trouve quelque chose qui me plaise, peu importe à la rigueur ce que c'est pas grave si c'est pas prestigieux, c'est pas grave si c'est pas... Voilà, mais juste que je commence un petit peu à m'écouter et arrêter de juste suivre la route qui est toute tracée devant moi, que... Je ne veux même pas dire mes parents, parce que mes parents, en fait, oui, m'ont poussé à faire ces études-là, mais pas méchamment et jamais avec une mauvaise intention, juste parce qu'ils pensaient que c'était ce qui me correspondait et que je pense que j'ai jamais dit non, tu vois. Donc, très souvent, d'ailleurs, c'est un petit conseil que je peux donner aux jeunes qui nous écoutent, c'est que souvent, en fait, on projette un peu une intention sur ses parents, mais bien souvent, les parents, ils n'en savent rien. Ça fait 30 ans que, en tout cas, les études, tu vois, ils n'ont pas touché à ça. Ils ne savent même pas ce qui se fait de nos jours ou pas. Donc, en fait, c'est aussi à nous, jeunes, de dire non, mais en fait, moi, c'est ça qui me plaît. Et si tu es suffisamment convaincant, en général, tes parents te suivent. Et moi, c'est juste que j'avais pas de vision. Donc, mes parents m'ont un peu poussé, mais c'est tout. Et donc, tout ça pour dire que j'ai commencé à suite à ce déclic, à me dire, mais en fait, au fond, j'ai réalisé, si tu veux, que ça faisait 6 ans que je faisais des choses pour faire plaisir aux autres, que je m'étais jamais posé de questions sur ce que je voulais moi vraiment, que je n'en savais fichtre rien, malheureusement.
Et comment tu as fait alors pour. Te réapproprier ta propre vie sans chercher à répondre à ce que ton entourage souhaitait de toi, mais en réalisant ce qui te ressemblait vraiment. Qu'est-ce que tu as mis en place dans ton quotidien pour trouver ta voie, entre guillemets ?
À la rigueur, à l'époque, j'ai pas mis grand chose en place dans mon quotidien. La seule chose que j'ai faite, mais qui est arrivée naturellement, c'était pas prémédité, si tu veux. C'est comme je suis passée par cette phase de grosse déprime. En gros, je me suis beaucoup refermée sur moi-même. Et donc, j'étais assez seule. Et l'avantage, malgré tout, quand on est seule, alors c'est qu'on fait pas grand chose de ses journées, en tout cas, moi, c'était le cas. Mais néanmoins, au moins, j'avais pas du tout de pression extérieure. Je m'étais complètement coupée du monde extérieur, et notamment de ma famille, de mes profs, etc. Et donc, en fait, si tu veux, j'ai vraiment pour la première fois arrêté de demander des conseils aux autres. J'ai arrêté de demander aux autres ce qu'il fallait que je fasse, quelle était la solution. Mais j'ai commencé à y réfléchir moi-même. Et en fait, j'ai épuisé, si tu veux, un peu au fond de moi, qu'est-ce que je voulais, quelles étaient mes envies. Et donc, j'ai beaucoup lu à cette période-là. J'ai passé énormément de temps sur Internet et j'écoutais beaucoup la radio. Je me rappelle, il n'y a pas encore de podcast. Mais voilà, j'avais en fait besoin d'une nourriture intellectuelle différente qui ne soit pas dans le jugement et qui me permette en fait de tu vois, puiser une inspiration. Et faisant ça, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait réellement et ce qui m'avait toujours plu plus jeune, c'est ce que je te disais au tout début, c'est que en fait, moi, j'avais toujours aimé créer, j'aimais produire, j'aimais voir les effets de mes actions. Et en fait, il n'y a rien de pire, justement, pour moi que de travailler pendant 2 ans sur quelque chose qui, parfois, ne verra jamais le jour. Enfin, franchement, pour moi, c'est un déchirement total. J'adorais, au contraire, être dans l'action. C'est vraiment un truc qui m'a toujours porté. Je me suis dit, mais finalement, quel est le métier qui va m'apporter cette aventure, ce risque, cette action, c'est l'entrepreneuriat. Et il faut que je te dise, Victoria, qu'à l'époque, ça c'était donc en 2009-2010, l'entrepreneuriat, c'était pas la mode. C'était à l'époque, en gros, les entrepreneurs, c'était des gens qui n'avaient pas réussi à faire des études et du coup, qui un peu par défaut lançaient leur boîte parce que globalement, ils n'avaient pas réussi à trouver un job. Et donc, franchement, quand j'ai commencé à me dire « je veux être entrepreneur », c'était pas glamour, si tu veux. Mais j'ai senti que c'était quelque chose qui me touchait au cœur, que c'était quelque chose qui me correspondait vraiment et que je le faisais pas pour faire plaisir aux autres, mais vraiment parce que je sentais que c'était quelque chose qui allait me plaire, cette liberté, je te parlais de liberté, c'est quelque chose qui me touchait. Donc ça a été mon premier déclic. Le deuxième déclic, c'est après quand j'ai commencé à me dire, ok, c'est bien beau de vouloir entreprendre, mais dans quoi, tu vois? Et surtout, qu'est-ce que je peux savoir faire? Parce que moi, à part faire des dissertations, ça faisait globalement 6 ans que je faisais pas grand-chose. Donc en gros, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps pour le coup à comprendre dans quoi je voulais entreprendre, parce que j'avais pas de compétences, que j'avais jamais travaillé finalement dans une entreprise, et que tu vois, j'avais aussi peut-être un petit complexe de légitimité, mais en gros, je savais pas quoi faire.
D'accord.
Et donc l'idée est venue un peu naturellement quand avec mon copain qui était revenu des États-Unis, on s'est fiancés.
Mais avant ça, tu as quand même intégré HEC.
Ouais, j'ai intégré HEC entre-temps. Parce que quand j'ai raté l'ENA, en gros, c'est à ce moment-là, tu vois, que j'ai eu un peu le petit déclic de me dire, non, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est entreprendre. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'y connaissais tellement rien. Je connaissais rien à la comptabilité, au droit du travail. Enfin, C'est même pas que je voulais être une technicienne, mais en fait, j'étais, à part faire des dissertations, une fois de plus, dans des secteurs littéraires, je savais rien faire. Et donc, je me suis dit, non, mais il faut quand même que je me forme un minimum. Et je pense que c'était aussi pour moi l'occasion de un peu me rassurer, tu vois, sur ma capacité à faire du business. Et puis, d'autre part, c'est pas que c'était prestigieux, parce que pour le coup, je pense que j'étais passée à autre chose. Mais je me suis dit, HEC, il y a une super majeure entrepreneuriat qui est très réputée. Et je me suis dit, bah, ça va être l'occasion d'apprendre auprès, tu vois, de la meilleure école. Et donc, ce qui était génial, c'est quand je suis rentrée à HEC, donc j'ai refait des concours, etc. Je suis rentrée à HEC, j'ai fait 2 ans à HEC. Ce que j'ai adoré, je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils font une école de commerce, qui sont un peu désespérés parce qu'ils ont l'impression qu'ils apprennent rien, que c'est nul et tout. Mais moi, comme j'étais vraiment là pour apprendre, que je savais pourquoi j'y étais, que j'avais fait un choix, dis-toi que j'étais la cougar de l'école. Hein. J'avais genre 26 ou 27 ans à un moment où les gens, ils ont 21, 22 ans. Donc honnêtement, c'était un vrai choix, pas facile de faire ça. Et en plus, ça coûte beaucoup d'argent. Et je l'ai fait parce que bah, je voulais apprendre, vraiment. Et donc, j'ai vraiment mis à profit ces 2 années. J'ai adoré ces 2 années. Je me suis fait des super potes qui sont plus jeunes que moi, du coup. Mais du coup, ça me rajeunit un peu, c'est pas plus mal. Et donc, j'ai adoré ces 2 années. Et à l'issue de ces 2 années, j'ai fait donc, cette fameuse majeure HEC Entrepreneur qui m'a beaucoup apporté, tant en termes de contact que de, tu vois, de quelques idées, on va dire, de business. Et c'est là, effectivement, qu'après, je me suis sentie capable de créer ma boîte. Et puis, c'est surtout, je sais pas si je me sentais capable, mais c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée. Je pense qu'il n'y a pas de secret, tu vois, c'est que l'idée, elle est venue aussi quand je me sentais suffisamment, tu vois, sûre de moi pour pouvoir avoir une idée.
Et donc, comment t'es venue l'idée de Jamio ? Est-ce que tu cherchais activement une idée pour lancer ta propre entreprise ou est-ce que tu avais d'autres ambitions initialement pour ta carrière professionnelle et l'idée de Jamio est venue un peu par hasard finalement sur ta route ?
Alors, l'idée de Jamio est venue par hasard, ça c'est clair, parce que j'avais jamais anticipé de travailler dans le secteur de la joaillerie, qui est un secteur que je connaissais rien, auquel je connaissais rien, qui, pour être honnête avec toi, était même pas un secteur qui m'intéressait. Enfin, tu vois, comme beaucoup, je pense que comme j'y connaissais rien, bah, je m'y intéressais pas, que par ailleurs, j'avais personne dans ma famille qui travaillait dans ce domaine. Donc, en fait, c'est venu par hasard au niveau de l'idée. Par contre, très clairement, je cherchais très activement une idée, mais j'en avais pas énormément. Et donc, j'ai essayé de lancer quelques petites boîtes avant Jamio, mais qui n'ont jamais vu le jour réellement. Donc, quand je dis que j'ai essayé de lancer des boîtes, c'est que j'ai réfléchi à des projets, mais je ne me suis jamais vraiment investie dedans. J'ai essayé de lancer une boîte, je me rappelle déjà, dans le secteur de la formation. J'ai beaucoup réfléchi à des idées de boîtes dans le domaine de la gastronomie, du vin, parce que c'est des secteurs qui m'intéressaient beaucoup. D'ailleurs, mon premier vrai gros stage que j'ai fait lorsque j'étais à HEC était dans une start-up dans le milieu du food qui s'appelle Hugo et Victor, qui était une pâtisserie et c'était la, on va dire, une des premières maisons de pâtisserie à vraiment mettre beaucoup de marketing dans ce qu'ils faisaient. Et donc, j'ai été vraiment là au tout début et j'ai énormément appris. D'ailleurs, un petit conseil que je peux donner, souvent, en fait, les stages sont assez négligés, je trouve, comme étant vraiment une partie essentielle, je pense, de comment réussir à trouver un futur à sa carrière. Et moi, j'ai été extrêmement intentionnelle dans ma manière de chercher un stage. Comme je n'avais jamais bossé dans une entreprise, je savais qu'avec HEC, il fallait que je fasse un stage. Et donc, j'ai envoyé des candidatures spontanées année à pas mal de boîtes qui m'intéressaient et notamment donc plutôt des startups dans le secteur de la gastronomie qui était le secteur qui m'intéressait en disant aux gens concrètement je veux quasiment pas être payé, il faut juste que j'ai de quoi vivre mais quasiment pas, ce que je veux c'est apprendre, je me mets à votre disposition, je veux être votre larbin, si jamais il faut que je sorte les poubelles, s'il faut que je fasse des livraisons, s'il faut que je fasse de l'Excel toute la journée, vous me le dites, moi je veux apprendre un maximum, je suis là pour ça, donc n'hésitez pas. Alors je sais qu'il faut pas en tant qu'employeur exploiter son collaborateur, évidemment. Mais par contre, de mon point de vue, si tu veux, quand j'étais à l'époque jeune étudiante et que j'avais tout à apprendre, c'était pour moi un moyen finalement de puiser à la source. Et donc, j'ai réussi à devenir bras droit de ce fondateur d'entreprise qui s'appelle Sylvain Blanc, qui m'a recruté et j'ai passé 9 mois exceptionnels. J'ai tellement appris, Victoria, mais j'ai appris... J'ai participé aux levées de fonds, j'ai ouvert des boutiques, j'ai effectivement vidé les poubelles et aussi fait des livraisons. Mais si tu veux, à la rigueur, c'est la vraie vie de l'entrepreneur. Moi, je lui ai dit, je veux vivre la vraie vie de l'entrepreneur. Et lui, il le faisait aussi. Hein. C'était pas moi, la stagiaire, qui le faisait. C'était, on le faisait ensemble. Et c'était ça, la vérité. C'était que quand t'es entrepreneur, tu dois réaliser que ben, t'as des moments parfois un peu qui sont des moments prestigieux, mais t'as aussi les moments où, quand dans ta boîte, les toilettes sont cassées ou je sais pas quoi, ben, en fait, très souvent, celui qui s'en occupe quand même, c'est celui qui est le fondateur. Et donc moi je voulais apprendre ça, je voulais le vivre et je voulais m'assurer quand même que c'était pas juste une idée dans ma tête l'entrepreneuriat que j'avais un peu rêvé mais qui était quelque chose qui me plaisait vraiment. Et tu vois, j'ai tellement aimé ce stage que je devais faire un stage de 5 mois et j'ai demandé à prolonger et je suis restée 9 mois chez eux. Et ça a été une expérience exceptionnelle pour moi. Et donc voilà, le petit conseil que je peux donner, c'est pour ceux qui se cherchent et qui surtout envisagent d'entreprendre, je trouve que ce genre de candidature spontanée où je dis pas qu'il faut dire qu'on veut sortir les poubelles, mais par contre être très explicite sur le fait qu'on est là pour se mettre au service d'un entrepreneur et qu'en fait on est là pour apprendre et qu'on veut apprendre le maximum, être son bras droit et vraiment l'assister dans tout autant les bons moments que les moments difficiles. Déjà, je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui seraient ravis d'accueillir ce genre de personnalité. Et puis au niveau du stage, en fait, ça en fait quelque chose d'extrêmement riche. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je reproduis maintenant, puisque maintenant, j'ai avec Gémio et avec Le Gratin, j'ai des stagiaires bras droit avec régularité qui, du coup, sont plutôt contents, je pense, parce qu'ils apprennent, plein de choses, du coup, à mon contact. Donc, c'est un petit conseil que je peux donner. Mais voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait HEC, effectivement, que j'ai beaucoup appris sur l'entrepreneuriat lors de ce stage. Et pour répondre finalement à ta question, même si c'est de manière très, très allongée, avec beaucoup de circonvolutions, en gros, quand j'ai terminé HEC Entrepreneur, je savais que je voulais entreprendre, mais je n'avais toujours pas la bonne idée. Après avoir testé plein de trucs, je n'y arrivais pas, je n'avais pas d'associé et tout. Et c'est arrivé complètement par hasard quand mon copain m'a demandé de l'épouser. On a été chercher une bague de fiançailles parce qu'on n'en avait pas du coup dans la famille. On a été assez presque choqués, si tu veux, de l'accueil, de la manière en fait dont la joaillerie était vendue, parce que c'était souvent extrêmement intimidant, extrêmement cher aussi, et que si jamais tu allais pas chez des très grandes maisons, bah souvent en fait ça devenait assez rapidement très cheap, et qu'on a trouvé qu'il y avait pas d'équilibre, si tu veux, il y avait pas de jeunes maisons plus modernes qui proposent, qui rendent plus cool la joaillerie, qui en fassent vraiment un bel objet symbolique, ce que c'est, parce que c'est pour des fiançailles, mais ça peut être pour un anniversaire, ça peut être pour un premier job, justement, ça peut être pour plein d'autres occasions, et on trouvait que finalement c'était souvent assez guindé, et au-delà d'être guindé, que c'était pas très humain, on avait envie de créer autre chose, et un peu de manière inconsciente, donc je me suis associée avec mon mari, et on a créé Gémio juste à ce moment-là.
Est-ce que tu peux nous partager ton état d'esprit, tes peurs, tes excitations, en somme tous les sentiments que tu as pu avoir au début de cette aventure entrepreneuriale ?
Majoritairement de l'excitation. Je pense que c'est le sentiment qui doit être le sentiment prévalent, parce qu'en fait, oui, t'as toujours un peu peur, tu peux avoir de la frustration et tout, mais si tu veux, c'est tellement dur quand même, parce que tu te prends tellement de noms dans la figure, que si t'as pas...
Surtout aux sorties de
l'école. Si t'as pas une très très forte motivation, juste l'envie... En fait, moi je dis souvent, quand on a lancé Gémio, il y a une réalité, c'est qu'en fait... Je pense que l'échec n'était même pas une option. C'est-à-dire que on l'a lancé, j'ai même pas pensé que ça pouvait échouer, je me suis même pas posé la question, je sais pas comment te dire, j'étais tellement à 400%, j'étais tellement motivée, j'avais tellement envie que pour moi en fait on allait forcément trouver une solution, quelle qu'elle soit, peut-être que ça allait être un pivot, peut-être que ça serait une autre entreprise, peut-être que je me serais retrouvée à vendre autre chose que des bijoux, tu vois, j'en sais rien, mais en gros pour moi c'était même pas possible, si tu veux, que ça soit une option. Et je te dis un exemple caractéristique, c'est que, bon, j'ai déjà raconté cette anecdote mais qui est tout à fait vraie, c'est que quand on a lancé la marque, il fallait trouver des ateliers, forcément. Oui. On voulait fabriquer en France. Trouver des ateliers qui acceptent de travailler pour une jeune marque de joaillerie avec deux jeunes qui n'y connaissent rien, qui n'ont personne dans leur famille, dans le sérail, et qui en plus, franchement, ils connaissaient tellement rien qu'on disait un peu n'importe quoi. Enfin, tu vois, je les contactais, j'avais pas le vocabulaire, etc. Ça a été très, très difficile. Et pourtant, c'était absolument indispensable, parce que sinon, évidemment, on pouvait pas fabriquer des bijoux. Honnêtement, je pense que j'ai appelé 150 ateliers différents, donc tout autant des petits artisans, tu vois, qui ont leur arrière-boutique où ils ont un petit établi joaillier, que des grosses, des grosses usines de fabrication, et c'était un non systématique. Et plein de gens autour de moi me disaient, non mais en fait ça fait 3 mois que tu passes des coups de fil, que tu essaies de rencontrer des gens, que tu tapes des noms, en fait c'est juste pas possible.
Arrête, bah, lâche
moi,
le truc.
En fait, lâche le truc. Et même, pour être honnête, mon mari, qui de ce point de vue-là était moins sûr de lui, me disait, non mais en fait, on va pas y arriver. Il avait vachement de coups de mou à ce moment-là sur ce sujet. Je lui ai dit, mais écoute, il en faut un. Il en faut juste un qui accepte. Il y a juste besoin d'une personne qui accepte de travailler avec nous pour qu'on se lance. Et en fait, j'étais tellement convaincue de ça, j'avais tellement en fait une foi inébranlable dans le fait que ça allait arriver, que je faisais des pieds et des mains, que j'ai... Honnêtement, j'ai fait tout ce que j'ai pu et j'ai fini par trouver un atelier qui, un peu, sincèrement, par pitié, hein, faut être honnête, je pense, et par amitié, par gentillesse, a trouvé que finalement, quand même, je me défonçais pas mal et que c'était plutôt inspirant. Et donc, s'est dit, on va laisser sa chance à cette petite, tu vois. Et il nous a pas pris énormément au sérieux, mais quand même, nous a laissé une chance. Et aujourd'hui, cette personne, je m'en rappelle, je la remercie encore, s'appelle Frédéric. Frédéric nous a tendu une main. Et très souvent, au début de l'entrepreneuriat, c'est comme ça que ça commence. Nous a tendu une main. Et aujourd'hui, leur atelier, qui, je crois, à l'époque, avait peut-être 15-20 collaborateurs, on a pas loin de 100, tellement l'entreprise s'est développée au rythme de la nôtre aussi. Et donc, c'est notre atelier partenaire, si tu veux, principal. Parce que ce coup de main, si tu veux, nous, maintenant que l'entreprise s'est pas mal développée, on a pu lui rendre. Et donc ça, je trouve qu'il y a un espèce de karma aussi, tu vois, qui fait que... À un moment donné, si jamais quelqu'un t'a tendu une main, un moment où tu étais au fond du trou, je trouve que c'est la moindre des choses de l'y rendre. Et c'est ce qu'on a pu faire et j'en suis hyper, hyper fière et hyper heureuse.
Comme quoi, avec de la passion et de la motivation, on peut réussir.
Eh bien oui, il faut s'accrocher. Mais ça finit. Ce que je dis quand même, parce que parfois en fait, je trouve qu'on confond un petit peu persévérance et le côté un peu, je me tape la tête contre un mur 150 000 fois en espérant que ça change. Si tu veux, moi quand j'ai essayé de démarcher les 150 ateliers, pour être clair, j'utilisais des techniques différentes d'approche à chaque fois et j'apprenais de mes erreurs. Et une fois, je les contactais par mail, une fois par téléphone, une fois je faisais un rendez-vous physique, une fois je les invitais à déjeuner. Enfin, tu vois, je tentais tout parce que en fait, il faut pas s'étonner de ne pas avoir de succès. Quand on fait toujours la même chose. Donc quand même un point peut-être, si on prend un peu de recul, mon point c'est de dire oui, il faut être persévérant, mais il faut être persévérant si tu veux sur le fait qu'on va s'accrocher et sur le fait qu'on va essayer de trouver une solution. En revanche, la solution, il faut tester 150 000 options pour savoir laquelle va être la bonne. Et si j'avais fait, sur ces 150 ateliers, toujours la même démarche, je pense que je ne serais pas là à te parler aujourd'hui.
J'aimerais parler d'échec avec toi, parce que ce mot est encore connoté très péjorativement en France, alors que dans d'autres pays comme aux États-Unis par exemple, l'échec est valorisé et même encouragé. Pour toi, d'où vient cette peur de l'échec en France ?
Écoute, c'est pas évident de répondre pourquoi il y a une aussi forte peur de l'échec en France. J'imagine que ça remonte pas mal à l'école, où on est quand même beaucoup noté, si tu veux, donc en rouge, où on te dit t'es en dessous de la moyenne, au-dessus de la moyenne, etc. Il y a un système quand même qui fait que si jamais tu ne réponds pas correctement à une question, t'es un peu stigmatisé. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits là-dessus, mais la réalité, c'est que ça a été pas mal, inculqué, même dans l'école de la Troisième République. Enfin, si tu réfléchis, tu vois, à tous les vieux films de Marcel Pagnol, etc., t'imagines les élèves qui sont absolument irréprochables et si jamais ils ne donnent pas la bonne réponse au tableau noir, on leur tape limite sur les mains. Donc il y a un côté quand même, l'erreur ou l'échec ne sont pas vécus comme quelque chose qui permet d'apprendre, mais comme une faute. Un côté un petit peu judéo-chrétien d'ailleurs, qui n'est pas forcément quelque chose qui me fait très plaisir. Mais du coup, ce qui est certain, c'est que la vision pas mal française, mais ce n'est pas que française, je pense que c'est assez latin, pour être honnête, c'est que si jamais tu te trompes, si jamais tu fais une erreur, ce n'est pas que tu progresses parce que tu peux en tirer un enseignement, c'est effectivement que tu as commis une faute et donc que tu dois être puni. Il y a quand même un peu ce côté-là. Et ça, c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, le meilleur moyen d'apprendre, en réalité, et ça, toutes les études neuroscientifiques te le disent, même d'apprendre à marcher, d'apprendre à parler, c'est justement d'essayer de faire une erreur et du coup d'apprendre. C'est ce qu'ils appellent très souvent en anglais le feedback loop, c'est-à-dire en fait avoir un retour sur ton action, donc avoir un enseignement que tu tires d'une action que tu as prise. Si tu fais pas d'action, si tu fais rien, en fait tu n'apprends pas parce qu'en fait tu peux pas savoir si ça fonctionne ou pas. Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est assez ancré effectivement dans la culture et qui fait que beaucoup de gens n'osent pas passer à l'action parce qu'ils ont tellement peur de se tromper qu'ils sont complètement paralysés. Mais en fait, si tu inverses un peu le paradigme et que tu te rends compte que finalement c'est en faisant plein de choses que oui, il va y avoir 80% qui est acheté à la corbeille, qui est nul, et c'est pas grave, c'est comme ça, mais que c'est en fait en faisant ces 80% de choses ou ces 100% de choses que tu vas avoir de temps en temps des petites pépites qui vont te permettre déjà d'avoir du succès et deuxièmement d'apprendre, parce que même si t'as planté ton coup la première fois, en fait c'est la deuxième qui sera la bonne, ou la troisième, ou la cinquième, et bien ça te permet en fait d'être beaucoup plus à l'aise à l'idée de te tromper et donc d'avancer. Et moi, mine de rien, cet échec de l'ENA dont je te parlais, c'était un peu mon premier gros vrai échec. Alors, on peut en rire un peu parce que finalement, c'est un échec, tu vois, des échecs dans les études. Je pense qu'on en a tous vécu. Enfin, c'est hyper difficile, c'est hyper compétitif et tout. Mais moi, comme j'avais eu que finalement de la chance dans mes études et que j'avais toujours réussi mes concours, là, quand tout d'un coup, je me suis plantée, qu'en plus, je me suis pris un 2, bah, ça a été donc très dur pour moi. Et ce qui a été pour moi le vrai salut et le vrai apprentissage, c'est quand en fait, je me suis rendu compte que j'en étais pas morte.
Oui.
Qu'au final, franchement, mes parents m'aimaient toujours. Qu'au final, ça m'avait même peut-être permis d'apprendre quelque chose, qui était que ben non, je voulais pas faire ça, et qu'au contraire, il fallait que je commence à me poser des questions sur ce que je voulais pour ma vie. Et donc, au final, cet échec, il avait vraiment donné un sens à ma vie et qui m'avait permis d'apprendre beaucoup plus qui j'étais. Et que si jamais j'avais pas eu cet échec, ce qui est vrai, et j'en suis convaincue aujourd'hui, Victoria, eh ben, je pense que je serais probablement dans un métier qui me saoule profondément, qui me correspond pas, qui me plaît pas. Et c'est grâce à cet échec, finalement, que j'ai réussi à trouver ma voie. Donc, au final, si on arrive à se rendre compte de ça, à se rendre compte que l'échec, en fait, souvent, c'est un moment de prise de recul, parce qu'en fait, ben, c'est comme si tu en étais sur une lancée, t'as un échec, c'est un coup d'arrêt. Tu tombes, et du coup, bah, quand tu tombes, si je file la métaphore, t'es obligé à un moment donné de voir un petit peu si tout va bien, donc tu prends un peu de recul, et puis ensuite tu te relèves. Mais tu peux te relever différemment. Tu peux te relever, en fait, en te rendant compte que finalement, il fallait pas que tu cours dans la même direction. Et bah, ça, c'est quelque chose, cette pause, qui je pense est absolument essentielle, et plutôt que d'avoir peur de l'échec, je dis pas qu'il faut l'embrasser et vouloir échouer, mais en tout cas, quand il arrive, il faut se poser la question, je pense, systématiquement de « Ok, qu'est-ce que ça m'a appris ?» Moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire beaucoup, qui est, bah, tu vois, je te donne un exemple, chaque année, avec mon mari, on a un petit exercice sympa, c'est qu'on liste les moments qu'on a préférés dans l'année, donc ça, c'est plutôt le moment un peu sympa. Et puis, on liste aussi toutes nos plus grosses erreurs ou tous nos plus gros échecs, et pas uniquement pour les lister, mais pour se dire « Ok, qu'est-ce que ça nous a appris ?» Parce que le vrai problème de l'échec, c'est pas de vivre un échec, c'est de ne pas en fait en tirer un enseignement. Si tu vis un échec et que t'en fais rien, là, pour le coup, c'est pourri. Là, pour le coup, ça ne sert strictement à rien et c'est un vrai gros échec. Mais par contre, si tu en tires un enseignement, bah, tu peux rebondir, effectivement, et ensuite apprendre et vivre quelque chose de complètement différent.
Je sais que tu aimes beaucoup les routines, l'organisation et les choses carrées. Et j'aimerais savoir pour toi, quelles sont les petites astuces que tu mets en place dans ton quotidien pour atteindre au mieux tes objectifs ?
Bah, moi j'aime bien les routines et les rituels, mais pas parce que j'aime ça et que je suis psychorigide. Il y a pas mal de gens qui pensent que je suis psychorigide. En fait, c'est pas ça, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement flemmard, au fond, comme beaucoup d'entre nous. Et je suis quelqu'un de, au fond, pas très discipliné. Et donc, pour réussir à être discipliné, comme je le sais, que je ne le suis pas, ben, je suis obligée de me créer des systèmes qui font que, ben, si jamais j'ai envie, par exemple, d'avoir un objectif, j'ai envie d'être en bonne santé, et typiquement, j'imagine que ça passe par du sport, ben, pour réussir à me lever le matin, à me tirer du lit quand j'ai mal dormi, que je suis fatiguée et qu'il pleut dehors, si jamais j'ai pas mis en place une discipline et surtout un rituel ou on va dire même des garde-fous, et ben franchement je vais jamais le faire. Et donc c'est quelque chose qui m'aide énormément, si tu veux, à créer des habitudes qui vont faire que dans le temps, ben, je vais réussir à atteindre mes objectifs. Parce que très souvent les gens sont assez convaincus que dans le milieu professionnel par exemple, ben, en fait ce qui fonctionne c'est un petit coup de génie, c'est... Tu vois, par exemple, les gens me demandent souvent « Ah, c'est quoi la recette du succès avec Gémio ?» Ben, en fait, il n'y a pas une recette unique. C'est un millier de petites actions. Alors, c'est un peu déprimant de dire ça, hein, parce qu'on se dit « Oh là là, mais du coup, ça va être jamais fini. » Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que du coup, on peut faire des petites choses, mais c'est juste que si on les met bout à bout et dans le temps et qu'on est consistant, c'est-à-dire qu'on va les faire avec régularité, eh ben, ça peut très bien fonctionner. Je te donne l'exemple du sport parce que c'est assez parlant, je pense, pour beaucoup de gens. C'est est-ce que tu penses que tu vas devenir vraiment fit, en bonne santé et sportive si jamais, par exemple, pendant un mois, tu fais 5 heures de sport par jour ? Alors, pas mal, mais en fait, ça a beaucoup mieux marché pendant une semaine. Ça a beaucoup mieux marché si tu fais, on le sait bien, 20 minutes, 30 minutes, 3 fois par semaine, par exemple, toute ta vie, évidemment. Donc ça, c'est pareil pour les régimes. Si tu veux, plutôt que de perdre 15 kilos d'un coup, il vaut mieux faire un rééquilibrage alimentaire et que ça soit dans la durée. Donc, c'est pas très sexy, parce que du coup, comme c'est des changements d'habitude profondes et que c'est pas, tu vois, on n'a pas de recette de hack, bah, en gros, les gens trouvent ça un peu chiant, mais c'est un peu la réalité. Et du coup, moi, ce que j'essaye de faire, c'est quand il y a des choses qui comptent pour moi, bah, de réfléchir, donc c'est assez intéressant, de dire bah, qu'est-ce que je vais pouvoir créer comme nouvelle habitude que je vais me forger pour réussir à atteindre mon objectif. Et donc, typiquement, bah, tu vois, je te parlais du sport. Moi, je suis plutôt pas sportive de base. Enfin, mes parents étaient sportifs, mais j'étais pas très douée, franchement. Et je me suis dit, bon, allez, ça suffit, je vais me prendre en main. Ça fait 6 ans que je bosse énormément avec Gémio, j'ai complètement laissé tomber le sport. Maintenant, j'ai décidé, je veux... être bien dans mes baskets, quoi, tout simplement, à tous les sens du terme. Et donc je me suis dit, bon, bah, ça passe par quoi? Bah, je pense que si j'arrive à faire 3 fois par semaine du sport, notamment typiquement de la course à pied, qui est un sport que j'aime bien parce que, où je suis un peu dans ma bulle et que par ailleurs je peux le faire quand je veux, d'où je veux, j'ai pas besoin, tu vois, d'aller dans une salle et tout. Si j'arrive à faire ça 3 fois par semaine, franchement, je serais bien. Et ben, je me suis rendu compte que c'était pas si facile. Et donc, j'ai étudié la question d'avoir un coach. Typiquement, l'avantage du coach pour moi, c'est au-delà des conseils qu'il peut me donner, ben, tu vois, il débarque à 7h du matin chez moi, j'ai pas le choix. Et donc, tout ça pour te dire que j'ai créé des rituels qui font que j'arrive maintenant à tenir dans le temps mes disciplines parce que j'ai décidé, si tu veux, de m'y tenir. C'est pas juste, je me suis dit, ok, c'est bon, je vais faire du sport pendant un mois. Non, c'est j'ai décidé que je veux changer et je veux être quelqu'un qui fait du sport 3 fois par semaine. Bah, du coup, qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver? Ça passe par... évidemment le noter dans mon agenda, me libérer du temps, peut-être me coucher un petit peu plus tôt les soirs précédents, et ça passe aussi par, dans mon cas par exemple, un garde-fou qui est mon coach qui va me forcer à me lever le matin. Alors tout le monde ne peut pas se payer un coach, je le sais bien, mais il y a plein d'autres choses. Ça peut être avec un ami, ça peut être tu vois, de dire si t'as une communauté sur Instagram, de dire à ta communauté sur Instagram que 3 fois par semaine tu veux faire du sport et les utiliser un peu comme un garde-fou. Donc il y a plein de techniques. Je vous donne un conseil, c'est que les parents, les amis, les frères, les sœurs, les copains, les copines sont toujours ravis de dire, de pointer du doigt quand tu n'as pas fait ton rituel. Donc les utiliser comme un garde-fou un peu rigolo, ça fonctionne toujours très très bien.
Je sais que tu as aussi ton petit chocolat chaud qui t'attend au retour de ton moment
de sport.
Exactement.
Ça fait partie, ouais, alors ça, si on rentre dans le détail, en fait, ça fait partie pareil, un peu, c'est au niveau neuroscientifique, mais c'est-à-dire qu'en fait, quand tu veux créer une habitude, il faut qu'à la fin de cette habitude, pour que le cerveau ait envie de l'ancrer, de l'automatiser, si tu veux, faut qu'il y ait une récompense. Et donc, que concrètement, quand tu fais ce que tu fais, donc typiquement, bah, c'est le cas pour la drogue, tu te shootes, la récompense, c'est quoi? C'est que tu vas avoir ce sentiment, alors, je me shoote pas, mais j'imagine un sentiment très profond, de délassement, etc. C'est le cas avec une cigarette, c'est le cas avec de l'alcool, etc. Donc, tu as toujours un moment de récompense qui, dans le cas de l'alcool ou de la drogue, évidemment, finit par s'estomper et devenir un problème. Mais mine de rien, la raison pour laquelle on devient addict, c'est parce qu'il y a cette récompense. Et donc, pour le sport, ça peut être la même chose. Ou pour le travail, si tu te crées une récompense et que ton cerveau lit dans ta tête ton habitude que tu veux créer a une récompense, et ben ça va beaucoup la faciliter. Donc moi, pour rentrer dans le détail, au-delà d'avoir ces garde-fous, j'ai lié dans mon cerveau, si tu veux, le fait de faire du sport à une très jolie récompense qui est un très bon chocolat chaud Van Houten sans sucre, mais parce que j'aime bien l'intensité du cacao noir. Et donc, je sais que j'aurai droit, si tu veux, à ma récompense. Et donc, j'ai presque un plaisir à aller courir, même sous la pluie, par moins de 2 degrés, si tu veux. C'est que je sais qu'après, je vais me faire mon chocolat chaud. Donc, c'est plutôt sympa comme incentive.
Pauline, aujourd'hui, avec le recul que tu as pu prendre et toutes les expériences que tu as acquises, qu'est-ce que tu considères être réussir sa vie ?
C'est pas facile cette question parce que je pense pas déjà avoir de réponse et puis surtout je pense que tout le monde réussit sa vie différemment. Ce qui est certain, c'est que la perception, tu vois, et l'acception du mot réussir, elle est très très différente pour tout le monde. Et je pense que avant il y avait un peu une image très claire de tu réussis ta vie, c'est t'as une famille, t'as des enfants, t'as un job qui te plaît ou pas d'ailleurs, mais où tu gagnes pas mal d'argent, la maison de vacances, le chien, enfin tu vois, il y avait une espèce d'image épinale. Je pense que maintenant il y a plein de choses différentes. Il y a des gens qui réussissent leur vie parce que ils vont vraiment s'investir dans un système caritatif. Il y a des gens qui vont réussir leur vie parce qu'ils sont libres. Il y a des gens qui vont avoir une famille très importante, très soudée. Enfin, il y a plein de manières. Je pense que pour moi, ce qui compte, c'est au-delà du classique sur mon lit de mort, regarder en arrière et juste me dire que j'ai eu une belle vie, qui évidemment est quelque chose d'important. Je pense que réussir sa vie, pour moi, c'est avoir en fait des envies, des objectifs qui comptent pour moi. Donc le sport, je t'en parlais, moi, être très amoureuse de mon mari, par exemple, ça en fait partie aussi. Avoir un sens dans ce que je fais au niveau professionnel, ça en fait partie. Et sur le chemin, en fait, avoir le temps de l'apprécier. Parce que je trouve que c'est trop dommage d'être tellement uniquement dans la projection future que tu vois, tu te dis, moi, mon but, c'est d'avoir, je sais pas, 10 millions d'euros sur mon compte en banque. Ok, très bien. Mais en fait, tu es tellement dans l'effort en permanence, tu es tellement en permanence dans l'ambition, dans le travail, dans l'insatisfaction, que finalement, je suis pas sûre que la vie soit très très réussie, parce que finalement, si t'as été toujours malheureux, parce que t'as toujours été insatisfait, je considère que c'est un petit peu dommage. Et donc pour moi, c'est un équilibre entre se pousser en avant, ne pas être complaisant, donc avoir de vrais objectifs, pas facile, mais en même temps, quand tu les atteins, ou quand on atteint une partie, ben, savoir les apprécier. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important et je pense que dans nos sociétés un peu contemporaines, j'ai l'impression de parler comme une vieille bique en disant ça, mais tu vois, dans nos sociétés, en fait, on est tellement dans l'effort, on est tellement dans le dépassement de soi, dans machin, qu'on oublie un petit peu que ce qui compte, au fond, c'est quand même globalement d'être heureux. Oui. Et que si toi, ce qui te rend heureux, c'est de passer un moment avec tes parents parce que tu sais qu'ils sont en train de vieillir et que bah, ce temps-là, du coup, c'est un temps que tu ne pourras plus jamais avoir plus tard. Franchement, je trouve ça magnifique et je trouve que c'est essentiel en fait de s'en rendre compte plutôt que d'être en permanence dans l'insatisfaction, de se dire qu'est-ce que je suis en train de rater en ce moment, qu'est-ce que je ne suis pas en train de faire, se rendre compte en fait de ce qu'on a et l'apprécier. Je pense que ça, c'est probablement pour moi la plus belle des réussites.
Fantastique. Écoute Pauline, dernière question, la fameuse question de la fin. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui?
Bah, je pense que le conseil que je me serais donné à moi-même plus jeune, c'est arrête d'écouter les conseils des autres, arrête d'écouter ce que te disent tes parents, ta famille, tes profs, tes amis, ton chien, toutes les personnes qui sont autour de toi. Et essaye surtout d'apprendre qui tu es et ce que tu veux, ce qui est un travail de toute une vie qui est très difficile parce qu'en plus, je vais te dire un truc, Victoria, la personne que tu es aujourd'hui et que je suis aujourd'hui n'est pas la personne qu'on sera demain. C'est on sûr. Change et c'est très bien. Mais en fait, essayer de comprendre qui on est et ce qu'on veut, on va dire à un moment T, ça, c'est hyper important, c'est hyper précieux. Et avoir cette gymnastique, tu vois, intellectuelle, de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, qui on est, qui on n'est pas, quelles sont ses valeurs, je pense que c'est hyper clé. Donc en gros, le conseil que je peux donner, c'est essayer de pas trop écouter les conseils des uns et des autres, essayer surtout de savoir ce qui au fond de votre cœur vous touche, vous fait vibrer et qui vous voulez être. Et ça, je pense que c'est le meilleur moyen de réussir au sens où je t'en parlais tout à l'heure.
Génial, merci beaucoup Pauline pour tous ces partages.
Merci à toi, à bientôt.
À bientôt. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils, j'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment 2 minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.